Vous écoutez Accès libre.
Avec Karine Villeneuve, Kamal Salifou, mon nom est Luc Fortin et on joint au bout de la ligne Catherine Desrosiers. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'association Emmanuel. On me dit que vous êtes gentille. Lynn, qui a causé avec vous, m'a dit du bien là, de l'entretien que vous aviez eu avec elle. La mission d'Emmanuel pour mettre tous au parfum, l'amour qui sauve peut se résumer ainsi, c'est-à-dire favoriser l'adoption d'enfants ayant une incapacité physique, également psychique, intellectuelle, et soutenir les parents biologique à la naissance d'un enfant handicapé. J'ai envie de vous poser la question tout de suite, puis il n'y a pas de mauvaise réponse, là, mais pourquoi soutenir des parents alors que j'ai l'impression que chaque segment du secteur de la limitation fonctionnelle a son association de parents?
Oui, tout à fait. En fait, ça fait partie des choses qu'on leur offre d'emblée de se référer aux organismes qui ont chacun une spécialisation. Il faut comprendre que nous, c'est très large. Hein? Mm-hmm. Mais en fait, c'est les gens qui nous approchent, c'est des gens qui envisagent l'adoption pour leur enfant. Donc, c'est une naissance imprévue. L'enfant a un diagnostic souvent très grave et parmi les options qu'ils ont, se pose la possibilité de confier à l'adoption.
OK, donc vous aidez même les parents à faire ce choix-là.
Tout à fait. C'est là qu'on entre en et non pas, peut-être c'est pour ça, d'où votre question en fait.
Mm-hmm.
Nous, c'est vraiment ça notre champ de travail à nous.
Wow, c'est
quand
fascinant.
Les gens ne peuvent s'imaginer un futur avec un enfant qui présente de lourdes incapacités souvent, là.
Oui, c'est une question sans vouloir juger la décision individuelle. Je me suis toujours posé la question comment ça se fait qu'une société permettait l'avortement alors qu'il y avait des parents qui voulaient aider et avoir des enfants malgré la limite que peut représenter certaines réalités de cet enfant-là. Fin de l'éditorial. Est-ce que les parents qui se questionnent viennent alors en pleine grossesse ou c'est une fois l'enfant né parce que tu veux pas te poser une question pendant 2 ans, là?
Non, tout à fait. Tout se peut. C'est arrivé qu'on accompagne des gens durant la grossesse. Il y a parfois des diagnostics qui se font dès la grossesse,
mm-hmm.
mais parfois c'est seulement qu'à la naissance ou en toute fin de grossesse là, que l'handicap est connu et appris par les parents. Donc, il y a plusieurs réponses, encore une fois.
Une petite question, est-ce que vous faites affaire avec seulement des enfants québécois? Ou?
De façon occasionnelle, il peut arriver qu'il y a des adoptions internationales pour lesquelles on peut avoir joué un petit rôle, mais notre mission, c'est vraiment de se concentrer sur les enfants québécois. Et on en a déjà quand même beaucoup, là. Donc, on se concentre au Québec essentiellement.
Ouais. Karine, qui est la directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille, sans vouloir faire du cas par cas, il y a quelqu'un de chez vous, Catherine, qui a appelé la QPPT cette semaine. Donc, il y a à la fois un service de référence qu'on peut donner aux parents, mais l'association Emmanuel va également faire des approches auprès d'autres organismes. C'est ce que je comprends.
Bien sûr, on réfère à nos parents qui ont adopté de contacter. En fait, on les encourage fortement à s'impliquer et à poser des questions aux organismes et aux associations qui ont leur champ de compétences. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on offre aux parents ce type de référence-là, là, comme ce que vous illustrez cette semaine, effectivement.
Ouais.
Tout à fait. Oui.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants handicapés qui est adopté au Québec chaque année?
C'est une statistique qui serait difficile à obtenir. Je peux vous donner nos chiffres à nous. Mm-hmm. De façon générale, dans les, disons, 3 ou 4 dernières années au Québec, c'est fait environ entre 200 et 250 adoptions là, pour toute la province au complet. Là, j'exclus les adoptions internationales, mm-hmm. c'est les adoptions québécoises. Nous, à Emmanuel, on a toujours de 20 à 25 demandes par année. Là. C'est pas mal constant depuis 10 ans. Donc, on recherche activement des familles pour 20 à 25 enfants tous les ans. Là. Ça vous donne une idée un peu là, de la proportion. Mais par handicap, des fois, c'est un handicap nommé comme la trisomie 21 ouais. ou quelque chose de connu. Mais parfois, c'est des enfants qui sont tout simplement issus d'un passé de négligence, de maltraitance. Et là, on ne sait pas trop comment l'enfant va se développer. Donc, c'est...
Avec tous les enfants que vous recevez, est-ce que l'issue est toujours heureuse, positive? Est-ce que tous les enfants réussissent à se faire adopter?
Bien, il y en a pour qui c'est plus long. C'est sûr que j'ai pas encore là des statistiques. C'est difficile parce que parfois, un centre jeunesse peut nous faire une demande, mais entre-temps, ils peuvent trouver dans leur propre réseau. Ou ceux pour qui c'est le plus difficile à trouver, c'est les enfants qui sont plus âgés. Oui. Donc, plus âgés de, mettons, 6 ans à montant. Là, ça devient difficile parce que c'est des enfants qui ont des gros bagages. Ou encore, ça peut être plus long pour des enfants qui ont des handicaps très lourd. Là, je parle à la fois d'handicap intellectuel, physique et, bon, qui ont des soins très complexes.
Oui. Catherine, permettez-moi une généralisation et vous la rebuterez du revers de la main. Je présume que les parents qui sont prêts à adopter un enfant avec une limitation fonctionnelle ont soit eux-mêmes une limitation ou quelqu'un de proche dans leur environnement ou ont une foi spirituelle.
Bien souvent, ce que je vois, ce que je constate, c'est que c'est des gens qui ont certainement eu une rencontre avec un enfant ou une personne qui présente un handicap ou une limitation importante. Et cette rencontre-là est venue réveiller chez eux quelque chose. Ça les a fait... ils se sont dit, oui, moi, je me sens bien avec cette personne-là, j'ai le goût de la connaître, j'ai le goût... C'est des coups de cœur, en fait, ouais. Hein, puis qui fait... Mais ça devient tellement... Ça l'ouvre tellement une porte grande, je dirais, que les gens se questionnent, est-ce que je serais prête à m'engager dans un choix de vie, finalement, comme l'adoption auprès de l'enfant. Donc, c'est un cheminement qui se fait sur plusieurs années, généralement, là. Alors, certains sont animés d'une foi, effectivement. D'autres sont complètement athées, mais ont quand même... Le truc en commun, je pourrais dire, c'est vraiment ça, c'est de dire une espèce de coup de cœur naturel, une attirance qui va assez fortement pour que la personne se questionne. Et puis pourquoi pas, tu sais, s'engager dans une adoption.
Catherine Desrosiers, qui est directrice générale de l'association Emmanuel. Catherine, j'arrive devant vous. J'évoque mon intérêt pour adopter. Je suis en couple, il n'y a rien de atypique. Mais vous détectez que, consciemment ou inconsciemment, je le fais parce que je veux être considéré comme le bon gars, le gars courageux, le père qui... qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là quand, disons, le motif n'est peut-être pas tourné vers l'enfant et c'est peut-être même inconscient, là?
Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est des trucs complexes, là, le désir d'enfant et tout. Mais faut comprendre que nous, on a un rôle qui est d'informer, de soutenir tout au long du processus là, pré-adoption. Mais l'adoption comme telle, l'évaluation psychosociale qui vient rendre possible l'adoption, ce sont les centres jeunesse qui la font. Alors, moi, si j'ai des petites lumières comme ça qui s'allument, c'est sûr que... comme je travaille en collaboration avec les centres jeunesse, il y a des choses que je vais leur demander de valider ou tout au long de l'entrevue d'évaluation qui dure quand même vraiment 10 à 15 heures. Tu sais, eux, ils ont le temps de creuser, là. Donc, ce sont des. Faut faire confiance au travail qui est fait puis à leur expertise rendue là.
Est-ce que, à titre de parents qui seraient intéressés à adopter, est-ce qu'ils peuvent avoir des critères, tel type d'handicap ou. Est-ce que ça, c'est possible?
Oui, tout à fait. En fait, c'est justement ce qu'on fait en pré-adoption, c'est qu'on aide les gens, on les informe sur les différents types d'adoption. Et puis après, on les aide à se diriger vers le bon type de projet qui va aller vraiment avec leur personnalité, là. Donc, on part toujours des besoins des enfants, évidemment, quand on est dans les processus de jumelage, mais on essaye toujours de trouver la famille chez qui ça va le mieux, ça correspond le mieux avec la personnalité, là, des gens.
Puis au niveau des temps d'attente, est-ce qu'il y a une différence justement entre adopter un enfant avec une limitation fonctionnelle par rapport aux enfants?
Oui, j'imagine qu'il y a moins de demandes, donc ça va plus vite.
Bien, c'est certain que oui, il y a moins de demandes, ça c'est certain. Ouais. La preuve, c'est qu'on existe. Sinon, les centres jeunesse n'auraient pas besoin nécessairement de notre travail de collaboration.
Sauf que c'est pas une bonne raison.
Pardon?
C'est pas une bonne raison d'adopter un enfant handicapé parce que je suis pressé.
Ah ben non.
Ouais.
C'est bien trop une décision sérieuse. Moi, honnêtement, ça, le désir qui est si fort puis ils veulent aller vite, ça a rarement été un problème parce que c'est tellement clairement annoncé ce qu'on fait comme travail. C'est tellement des affaires avec des grands besoins. Le rationnel n'a pas le choix d'embarquer solidement là, parce que c'est bien beau vouloir un enfant, mais quand on sait qu'il va avoir tout un paquet de défis, faut y penser là. Donc les gens le font, c'est pas des choix par dépit là, vraiment pas, c'est des choix par des vrais choix.
Ouais. Ouais. Ça peut prendre combien de temps, disons, les différentes étapes pour finalement recevoir Hector à la maison?
Eh bien, ça peut être relativement court, dans le sens de moins d'un an. Ça dépend de là où en sont les gens dans leur processus. Là. Il y a des gens que je rencontre que ça fait déjà 2 ou 3 ans qui sont en cheminement, qui ont déjà des procédures de fait avec leur centre jeunesse. Il y en a d'autres qui sont tout début de leur processus de réflexion. Donc, ça dépend vraiment, encore là, c'est du cas par cas, mais quelqu'un qui m'appellerait cet après-midi, qui a déjà un grand bout de chemin de fait, qui est déjà, qui a en plus une grande ouverture face aux handicaps, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui va rester longtemps à sa tablette.
Donc, j'entends qu'il peut y avoir des candidats plus intéressants que d'autres et ils vont peut-être cheminer plus rapidement dans la file d'attente. Ils vont peut-être passer devant Karine.
Bien, c'est possible si ça dépend aussi de leur région où ils sont situés. C'est sûr que des gens qui vivent près des grands centres, c'est souvent un plus parce que nous, nos enfants, ils ont des grands besoins. C'est le fun de rester près des hôpitaux, près des services, etc. Et c'est sûr que des gens qui sont plus éloignés, ben on va attendre d'avoir un projet pour eux. Il y a tout l'aspect légal aussi, j'ai pas parlé vraiment de ça, mais on a beaucoup de situations qui passent dans un processus de banque mixte où là, on a des étapes légales à franchir, donc on peut pas aller n'importe où au Québec. Il y a un paquet de facteurs.
Parlez-moi vraiment, là, les éléments légaux. On peut pas aller n'importe où au Québec, là. Expliquez-moi.
Oui, ben en fait, je sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec les termes de l'adoption, mais souvent l'adoption, il y a les adoptions régulières, donc ça va assez. Là, on est dans un processus où il y a un consentement à l'adoption qui est signé, mm-hmm. On peut procéder assez rapidement. Mais il y a aussi beaucoup d'adoptions qui passent au Québec par la banque mixte. Les gens qui
ça c'est location avec option d'achat là.
Ben c'est-à-dire que c'est un enfant à haut risque ouais. d'adoptabilité, mais dont les attributs parentaux passent dans un processus où le parent biologique s'est fait retirer la garde de son enfant à cause de toutes sortes de raisons qui sont en lien avec notre loi. Donc, à ce moment-là, c'est une procédure qui est différente. Et souvent, les enfants ont des contacts avec les parents biologiques pour un certain nombre de mois. Alors, c'est sûr que dans un processus comme ça, si l'enfant vient de Montréal, on l'enverra pas à Chicoutimi ou qu'il y a des contacts.
Ça a bien de l'allure. Ouais, voilà. L'animateur a tout compris.
Bon, mais c'est bien. J'ai pas été trop nébuleuse.
Non. Catherine Desrosiers, merci beaucoup, beaucoup.
Ça me fait plaisir.
C'est vrai que vous êtes gentille.
Bon, mais tant mieux. Je suis contente de confirmer.
vous voyez environ combien de parents par année? Que ce soit juste pour aller chercher des informations, puis vous ne les revoyez plus après, là. Avez-vous une idée de...
Ben c'est, disons, de 30 à 40 candidats, je dirais. Ou personnes. Puis ça, il y en a qui posent effectivement que quelques petites questions, je ne les revois plus. Puis il y en a d'autres ils sont prêts à aller de l'avant, et puis on les accompagne là-dedans.
Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Et ça me fait plaisir.
Catherine Desrosiers, qui est donc directrice à l'association Emmanuel.